Bien, alors, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Je commence par quelques mots d'introduction sur cette épître pour vous la situer et puis vous donner un peu des éléments sur ce qu'elle contient en dehors des deux chapitres que nous allons voir. Donc, deuxième épître de Paul aux Corinthiens parce que les feuilles, vous les aurez quand on va être sur le texte proprement dit. Paul, justement, va parler du désir et de la volonté. Très bien, je vois qu'il y a du désir et de la volonté, c'est parfait. Donc, il y aura une offrande de feuilles après. Donc, deuxième épître, parce que c'est un texte qui va être écrit dans un deuxième temps. On imagine que c'est une lettre qui est adressée à la fin de l'été ou au début de l'automne 57. Et de Macédoine, qui est une région dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'il y a un conflit qui est en train de se lever. Avant de vous dire un peu les différents textes importants dans cette épître, vous dire la tonalité générale, qui est celle d'une confrontation entre Paul et des apôtres qui sont venus dans cette communauté de Corinthe, qu'il avait suscité, à laquelle il avait déjà écrit, et qui conteste l'autorité de Paul. Et Paul va aller jusqu'à désigner ses apôtres comme des super-apôtres, qui sont manifestement des Juifs, peut-être venus de Jérusalem d'ailleurs, qui vont donc proposer un enseignement alternatif à celui de Paul. Alors, que trouve-t-on dans cette épître? Bon, il y a les deux premiers versets qui sont une adresse. Puis il y a une sorte de préface. Si vous avez une Bible, d'ailleurs, vous pouvez suivre au cours de route. Une préface qui va dire à la fois l'affliction, c'est le verset 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Donc vous voyez, il y a une dimension pénible qui ira jusqu'à ce que Paul parle d'une lettre écrite dans les larmes, ce qui est assez rare. On imagine toujours Paul dans sa superbe. Eh bien, on voit qu'il va être particulièrement touché. Touché parce qu'il va être touché dans son propre ministère. Et il va commencer par évoquer les difficultés passées, les raisons pour lesquelles il n'est pas retourné à Corinthe. Après quoi, du chapitre 2, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 4, il va s'employer à désamorcer en quelque sorte le conflit avec quelqu'un à Corinthe qui provoque finalement cette lettre dans les larmes. Il va faire une longue apologie de son ministère. En fait, il va se justifier, ce qui est assez rare chez Paul, et il va prendre comme argument que sa gloire se manifeste à travers les souffrances qu'il endure et le mépris qui lui est infligé, qui est assez analogue à ce que Jésus a vécu. Alors, vous comprenez l'argument. Se conformer à ce que Jésus a enduré crédibilise son propre ministère. Et finalement, il est confirmé dans les souffrances de Jésus-Christ. À partir du chapitre 7, les versets 5 à 16, explique la préhistoire de cette lettre, finalement. Vous verrez que le corps du texte intègre des éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que Paul en est arrivé à écrire. Il va raconter de quelle manière il a retrouvé Tite en Macédoine, par exemple, qui est l'un de ses collaborateurs. Et il va dire qu'il s'est réjoui de la fin du conflit. Et c'est un élément qui nous fait dire que cette lettre est une lettre en fragments, que ce n'est pas une lettre qui a été écrite d'un seul tenant, mais que c'est une lettre qui rassemble plusieurs lettres, en fait. Plusieurs lettres écrites à différents moments du conflit qu'il oppose à ses super apôtres. Bon, ensuite, on a les chapitres 8 et 9 que nous allons particulièrement voir. Et au verset 10-1, là, d'un seul coup, il y a quelque chose d'étonnant. « Moi, Paul, je vous exhorte par la douceur et la bienveillance de Christ, moi qui suis humble en face de vous et qui, de loin, suis plein de hardiesse à votre égard. » Et il y a une sorte de changement de ton qui nous fait dire là aussi qu'il y a une sorte de suture. C'est-à-dire que cette partie de l'Épître aux Corinthiens n'est pas dans le même ton que la justification de son ministère. Donc peut-être est-ce la trace d'un écrit postérieur, d'un écrit qui revient finalement sur la difficulté. Il va évoquer donc les super apôtres, par exemple au chapitre 11, verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Donc, vous voyez, il y a une défense de son ministère qui reprend l'argument qui doit lui avoir été opposé, à savoir que Paul, finalement, n'a pas la gloire de ces apôtres auxquels les Corinthiens se sont finalement confiés. Et donc, Paul va justifier que, en dépit des apparences, sa gloire est réelle. Et on l'a avec un passage qui est assez caractéristique. C'est au chapitre 10, il va vraiment utiliser l'argument de l'humiliation comme un argument d'autorité. C'est au verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, sous-entendu Jésus-Christ, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et donc, ce que Paul va disqualifier, c'est la prétention que ses apôtres ont de s'auto-justifier, d'être justifiés par leurs œuvres, en quelque sorte. Alors que Paul, lui, va être justifié par la parole d'un autre, on va dire par grâce, et ce qui va vraiment changer la donne, c'est que Paul va considérer qu'il ne peut pas tirer de noblesse de lui-même. C'est quelque chose qu'il a reçu. Et puis, au chapitre 12... Il y a ce passage très connu au chapitre 12, au verset 7. À cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues, il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Et donc il va opposer une humilité conférée par Dieu à l'orgueil et la prétention de ses adversaires. Il ajoute « Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, c'est bien le signe que Paul va opposer à la gloire de ses adversaires une supériorité qu'il ne tient pas de lui-même, qu'il a reçu et qui se manifeste dans le fait qu'il n'a aucune superbe. C'est, je ne sais plus comment il s'appelait, cet académicien qui avait intitulé son livre sur Paul, « Paul, l'avorton ». Et c'était une façon de dire que, justement, en n'usant pas d'un charisme personnel, il laisse toute la place à Dieu pour manifester sa gloire. C'est quand je suis faible que je suis fort, parce que Dieu peut donner toute sa mesure dans ma propre faiblesse. Alors, pour compléter le tableau, je vous donne juste quelques informations sur la nature du conflit hein, qui traverse toute l'épître. Alors tout d'abord, les adversaires de Paul vont venir avec des lettres de recommandation, contrairement à Paul qui vient un peu librement finalement. Au chapitre 3, recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou bien de vous ? Et donc, première distinction entre lui et les adversaires, c'est que les autres viennent avec des lettres, en quelque sorte des lettres de créance. D'où viennent-elles ? Peut-être de la communauté primitive de Jérusalem. Peut-être viennent-ils avec les écrits, par exemple, de Jacques, chef de la communauté primitive, en disant, eh bien, vous voyez, nous, nous sommes ambassadeurs de la communauté la plus fidèle qui soit. Au verset suivant, on a tout un développement de cela. Ensuite, donc ils se présentent comme apôtres, et Paul va se moquer d'eux comme super apôtres, hein, je vous l'ai dit au chapitre 11, verset 5. Ce que Paul va leur reprocher aussi, c'est de tirer la couverture à soi. Au chapitre 10, verset 16, il dit, enfin au verset 15 déjà, « Nous ne nous glorifions pas hors de toute mesure des travaux d'autrui, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. » Et donc, ce que Paul laisse entendre ici, c'est que les super apôtres se vantent d'avoir évangélisé Corinthe, alors que c'est lui qui a fait le travail. Et donc, il récuse la prétention que ces super apôtres ont d'avoir édifié une belle communauté, alors que c'est lui qui en est l'initiateur. Au chapitre 11, verset 22, voici ce que nous apprenons aussi sur les adversaires. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham ? Moi aussi. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que ce sont probablement des envoyés de la communauté de Jérusalem, c'est qu'ils sont juifs eux aussi. Hein, ce ne sont pas des païens convertis au christianisme, ce sont des juifs authentiques, et donc probablement des membres de la communauté de Jérusalem. Au chapitre 12, versets 11 et 12, il se vante d'avoir une sorte de puissance. « J'ai été un insensé, écrit Paul, vous m'y avez contraint. En effet, c'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai été nullement inférieur aux apôtres prétendument supérieurs, bien que je ne sois rien. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre, au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Et donc, il y a cette idée qu'il y a une légitimation par des actes de puissance. Et Paul va rappeler qu'il n'est pas inférieur à eux, que lui-même a manifesté ce genre de phénomène. Donc, on peut se dire qu'il s'agit probablement d'apôtres chrétiens d'origine juive, des prédicateurs itinérants peut-être, qui opèrent des actes de puissance, on dirait aujourd'hui des miracles, et qui, par ces miracles, attirent les personnes et, en quelque sorte, les fidélisent. Et Paul, lui, va refuser d'entrer dans ce jeu-là, et on le voit au chapitre 5, verset 16. Chapitre 5, verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et donc, ce que Paul va développer, c'est l'idée de « je ne veux connaître que Christ et Christ crucifié ». C'est-à-dire qu'à la théologie de la gloire, il va opposer une théologie de la croix pour disqualifier ceux qui vont prétendre qu'une foi authentique se manifeste par des choses surnaturelles. Paul va reprendre l'épisode de la croix pour montrer que la grâce de Dieu se manifeste à travers des choses proprement humaines, très humbles, voire scandaleusement humbles, la faiblesse. Et Paul va dire que finalement, la faiblesse et l'humilité sont de meilleurs gages de fidélité au Christ que la gloire et la superbe. On va en venir maintenant à nos chapitres 8 et 9. Alors je vous fais circuler la feuille, comme ça il n'y aura pas de frustration. Tanné, tanné. Donc, il y a les deux feuilles ? Ah non, ça c'est l'original, c'est pour ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Là c'est recto verso ensuite. Il y a une feuille et c'est recto verso. Donc, Paul va organiser une collecte pour Jérusalem. Et après les éléments que je viens de vous donner, peut-être que nous pouvons nous dire que la collecte n'est pas tout à fait gratuite. C'est-à-dire que si Paul organise une collecte pour Jérusalem, c'est peut-être aussi pour donner des gages à Jérusalem de sa bonne disposition. Comprenez que si, admettons qu'il y ait une paroisse qui soit soupçonnée d'être, enfin voilà, de vouloir être en scission, en rupture avec l'Union nationale, eh bien, le fait que cette paroisse décide d'une collecte particulière qu'elle donnerait à l'Union nationale, ça montrerait sa bonne volonté, sa fidélité et son désir de rester au sein de l'Union. Alors qu'une paroisse qui a envie de défier l'Union nationale, bah, elle va commencer par attaquer là où ça fait mal, c'est-à-dire l'argent. Bien. Premier point. Donc, peut-être que cette collecte est destinée à restaurer l'image de Paul au regard de la communauté de Jérusalem qui a le sentiment que Paul joue un peu comme un électron libre et qui est peut-être même hors de la communion. Or, Paul va justement insister sur la koinonia, sur la communion, et il va dire que cette collecte entretient la communion. On va voir ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, les versets 29 à 30, on voit qu'il y a une collecte pour les anciens de Jérusalem qui est faite vers les années 40. C'est Paul et Barnabé. C'est un don d'Antioche pour le service des frères vivant en Judée. Et donc là, nous sommes vers 56-57, et Paul se soucie du service des saints à Jérusalem. Ce n'est plus le service des frères, c'est le service des saints. Peut-être est-ce plus différent encore. Et cette fois, ce sont les églises de Galatie et de Corinthe qui vont être priées de mettre une certaine somme d'argent de côté chaque premier jour de la semaine, donc chaque dimanche. Oui, on va parler de la Macédoine et de l'Achaïe. Si vous ne reparez pas vraiment où ça se trouve, l'Achaïe, ça correspondrait en fait à la Grèce, hein, et la Macédoine, c'est au-dessus. Voilà, Presqu'île, Péloponnèse, tout ça, Achaïe, et puis la Macédoine au-dessus. Bien. Autre point que je note... Si je consacre une séance sur la question de l'offrande, c'est bien sûr pour faire plaisir à notre trésorière, mais c'est aussi pour dire que la question de l'argent est particulièrement significative sur le plan théologique. On pourrait presque dire « Dis-moi ce que tu fais de ton argent, je dirai quel est ton Dieu. » Et c'est exactement ce que Paul va faire. À travers un discours de deux chapitres sur l'argent, il va développer une théologie de la grâce, ce qui semble assez antinomique. Eh bien justement, il va montrer la liberté qu'il a vis-à-vis de l'argent pour exprimer quelque chose de ce qu'est la grâce et de la liberté que la grâce nous offre. Et donc, cet objet qui pose problème depuis des siècles et des siècles, l'argent, va être pour Paul, au contraire, sinon une solution, du moins un moyen pédagogique déjà, et puis même un vecteur de grâce, d'amour, de solidarité et ultimement de justice. Et donc, outre le fait de passer en revue les versets qui font ce texte, je pense que ça sera bien que nous parlions un peu d'une sorte de théologie du don et de la solidarité. C'est ce que Paul essaie de faire à travers ces versets. Voilà, maintenant je pense que le mieux c'est d'entrer dans le texte. On ne va pas le lire une fois parce que c'est assez long. Je pense qu'on va prendre les versets les uns après les autres. Et puis, comme d'habitude, on prend la parole, on s'interrompt, on pose des questions, on fait des remarques, on met en perspective. Bien, donc, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc là, on va utiliser la Macédoine comme illustration. La Macédoine est prise en exemple. Et notez qu'en disant « frère », il y a une sorte de rhétorique de l'apôtre Paul qui vise à mettre du lien. Et ça va être tout l'enjeu de cette épître, c'est de retisser un lien distendu, voire rompu. Donc dire « frère », c'est une façon de dire « je vous reconnais comme un autre moi-même ». Il y a une dimension familiale entre vous et moi. Alors, au milieu de beaucoup de tribulations, typsis, c'est affliction, tribulation, la vie mouvementée de l'Église, quoi, qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Eh bien là, il y a un paradoxe de Paul que l'on retrouvera souvent dans ses écrits. C'était aussi bien quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, c'est quand je suis pauvre que je suis riche. Et dans l'hymne aux Philippiens, Jésus, qui est en quelque sorte l'expression de la volonté de Dieu, s'est vidé de lui-même, prenant la condition de serviteur, se rendant esclave jusqu'à mourir sur une croix. Lui qui aurait pu se vanter de tous les titres de gloire. Eh bien, ce paradoxe de Paul est souvent utilisé parce qu'en fait, c'est comme un moteur à deux temps. Premier temps, la kénose, je me vide. Et tout à l'heure, on aura carrément le verbe qui dit le fait de se vider, la kénose. Je me vide, et en étant vidé de ce qui m'encombre, je suis disponible pour accueillir les bienfaits, la grâce, la providence. Autrement dit, je fais le ménage pour pouvoir accueillir ce qu'il y a de plus glorieux, de plus valeureux. On pourrait d'ores et déjà comprendre que, en vidant son portefeuille, on fait de la place pour du divin. En se débarrassant de ce qui encombre, on fait de la place pour ce qui va nous dynamiser. On va voir cette grâce surabondante qui vient ensuite. Oui. Oui. Donc, pour ce qui est de la pauvreté, on a ptokos. Et pour ce qui est de la richesse, c'est Ploutos.
Et en français ?
Eh bien, la pauvreté, c'est pauvreté, et riche, richesse.
Pauvreté,
ouais.
Et puis
riche. Riche, aplotétos, pour les libéralités, ça va être, on pourrait dire plutôt la simplicité, en quelque sorte. On va avoir après libéralité avec le mot eulogia, c'est-à-dire en quelque sorte bénédiction, et donc c'est pas tout à fait la même traduction. Là, c'est un mot qui va désigner peut-être un peu déjà le fait d'offrir gracieusement, enfin de laisser, voilà. Oui.
Dans ces notions de pauvreté et de richesse, si on saute au verset 9, Jésus. Non, mais. Ah, tu allais y arriver.
Oui.
On peut être étonné quand même quand il dit que Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était.
Oui.
Or, on n'a jamais eu le sentiment, enfin, moi, j'ai jamais eu le sentiment, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, que Jésus était quelqu'un de riche. Mmh.
Je vois, tu me tends la perche pour que je parle de l'hypothèse de Christian Fou, qui, à travers son étude des évangiles, dit que Jésus n'a jamais été pauvre sur le plan matériel, qui était d'une famille aisée, c'est-à-dire famille de prêtres déjà. Et puis, il ne faut pas imaginer l'artisan comme celui qui est sur le point de déposer le bilan tous les 15 jours. Hein, c'est-à-dire que si son père était charpentier, c'était pas quelqu'un qui tirerait la fin de mois par les quatre bouts. Donc, si c'est sûrement seulement sur le plan financier, on a des éléments sérieux pour dire que Jésus n'était pas de condition modeste. Mais la richesse, elle n'est pas là, en fait. La richesse, elle est dans la qualité de l'humanité de Jésus. Et ça rejoint l'épître aux Philippiens, avec l'hymne aux Philippiens. Hein, ce que je disais, Jésus, de condition divine, n'a pas tenu pour un dû de garder cette condition. Il s'est fait l'esclave de tous, en fait. Mais le paradoxe est le même, par contre, ça, je suis d'accord.
Et donc, ça a le même sens qu'au verset 1, au verset 2.
Oui.
La pauvreté et la richesse.
Oui, c'est-à-dire qu'on a ce paradoxe, ce moteur à deux temps. C'est parce que je lâche quelque chose que je vais être en mesure d'accueillir quelque chose de mieux. L'historien montre à quel point les nomades ont mieux réussi dans la vie. Si Napoléon n'avait pas quitté la Corse, il n'aurait pas eu le destin qu'il a eu. En perdant la Corse, il gagne l'Europe. C'est un raccourci un peu rapide. Ok. Mais les textes bibliques parlent toujours de cela. En lâchant sa famille et le confort, Abraham va devenir père de l'humanité. Ce qui est une métaphore pour nous tous, en fait. Mais il y a un proverbe comme cela, je ne sais plus, dans la sagesse populaire, on perd ceci pour obtenir un bien supérieur. Ah ben non, c'est Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, qui dit que finalement, on accepte de perdre une sorte de prérogative personnelle pour obtenir une liberté plus grande. Le fait de faire communauté avec d'autres.
Alors, dans le verset 2,
oui.
La joie débordante,
oui.
Est liée à la pauvreté profonde.
Oui.
C'est vrai. Enfin, est-ce que je me trompe
Non, c'est exactement cela. Hein, c'est ce que je disais, ça crée une sorte d'appel d'air, en fait. Le problème de... C'est Théodore Monod, hein, j'ai eu l'occasion de le citer plusieurs fois, qui disait que le problème de nos possessions, c'est qu'elles nous possèdent. Bon, je ne voudrais pas avoir une posture trop marxiste, mais comprenez bien que si vous avez un parc immobilier, un parc de voitures, etc., ça vous prend du temps pour l'entretien, la gestion, etc. Et peut-être qu'il y a des choses plus ultimes pour occuper un emploi du temps. Je dis ça à titre d'hypothèse. Rien contre la propriété foncière ou quoi que ce soit. Mais c'est pour se dire que, forcément, l'accumulation de biens nécessite un investissement personnel pour l'entretien de ce bien-là. Et pendant qu'on entretient ce bien matériel, on s'occupe moins forcément du bien humain. C'est juste un problème d'équivalence, oui.
Parce que psychologiquement, c'est une aliénation, l'argent.
Oui.
C'est pas loin du concept moral d'aliénation.
Oui, oui, oui.
C'est un souci. Donc le vide fait qu'on est libre.
Quand je disais vider son portefeuille... Ben, en fait, on n'a plus le souci de savoir ce qu'on va faire de son argent, par exemple. Bon. Bien sûr, ça semble un peu grossier comme idée. Mais on voit quand même beaucoup de personnes qui sont vraiment coincés par cet aspect matériel, et d'autres qui vivent dans l'opulence et qui ne sont pas du tout coincés, qui restent tout à fait libres, parce qu'il y a un rapport sain aux besoins, enfin aux objets matériels. Mais vous voyez, quelqu'un qui aurait manqué de tout dans sa jeunesse et qui va vouloir combler dans sa vie d'adulte et qui va être dans l'accumulation, et bien en fait, il ne va vivre que pour l'accumulation. Et donc, il va être prisonnier de cela. Et en fait, il ne va pas vivre. Parce qu'il lui manquera toujours quelque chose pour être sûr de ne pas manquer. Et la liberté, c'est bien autre chose. C'est bien sûr le passage des Hébreux qui sortent d'Égypte et qui ont envie de retourner en Égypte parce qu'au moins les marmites étaient pleines. Et donc là, il y a une aliénation. Et sans faire l'apologie des vœux monastiques, le vœu de pauvreté des moines, c'est pas le vœu de manquer de tout, c'est le vœu de ne rien posséder. Parce qu'en ne possédant rien, ils sont libres à l'égard de tout. Et du coup, ils peuvent s'investir pleinement. Voilà. Bon, voilà un peu l'idée, disons. Alors, ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Alors, les moyens ici, c'est dynamis, c'est la puissance. Hein, donc, leur capacité aussi, peut-être même leur pouvoir. Et donc, il y a un dépassement. Et ça rejoint le périsseo qui était la surabondance du verset précédent. Et il y a un mouvement d'entraînement, je parlais de moteur. C'est-à-dire que plus on donne, plus c'est facile de donner. Par contre, plus on retient, et plus c'est difficile de donner. Il y a une sorte de pédagogie de l'entraînement. Cercle vertueux ou cercle vicieux. Et donc, voilà, ils ont donné librement, ils ont même autorisé. Enfin bon.
Je pense que ce qui est très important, là, oui. c'est au-delà de leurs moyens.
Oui.
Je connais un pasteur qui disait on ne donne jamais que son superflu. Quand on donne comme ça aux gens.
C'est ce que Jésus disait. Quand il voyait les gens qui donnaient au temple, il voyait des riches qui donnaient des brasses d'argent, et puis il y a une veuve qui vient avec deux petites pièces. Et il dit, les autres ont donné leur surplus, elle a donné tout son bios.
C'est pour ça que je trouve que c'est le mot important, c'est au-delà de leurs moyens. C'est là, au-delà de leurs... Quand on donne au-delà de ses moyens, on se met carrément... Ouais.
Le moyen est peut-être, vous voyez, une traduction un peu limite, parce que c'est dynamis, c'est plutôt la puissance. C'est comme s'ils avaient donné au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir donner, c'est-à-dire au-delà de leur capacité. Vous voyez, c'est comme si vous disiez je présente un concours, j'espère être dans les 100 premiers. Et puis en fait, vous êtes le major de promotion, c'est-à-dire que vous avez fait mieux que ce que vous pensiez. Parce qu'il y a eu peut-être une interaction avec vos professeurs, vos collègues, etc. Il y a eu une émulation qui vous a porté à réaliser plus que ce que vous imaginiez. Mais moi, à mon avis, c'est aussi ce que l'on a dans ce qu'on appelle abusivement la multiplication des pains. Donc on a Jésus et les disciples qui sont face à une grande foule. Les disciples disent « maintenant il faudrait nourrir », ils commencent à avoir faim. Sous-entendu, Jésus jusque-là leur donnait que du superflu, quoi. Et Jésus leur dit « donnez-leur vous-même à manger ». Bon, ils vont voir un peu ce qu'il y a, et puis avec un enfant, tout ça, ils voient 5 pains, 2 poissons. Une des hypothèses, c'est qu'ils commencent à partager, et ce mouvement du partage donne l'idée à d'autres de partager aussi ce qu'ils avaient sur eux. Et il y a une sorte d'interaction positive. Et du coup, au bout de ce repas, il reste des paniers pleins, parce que finalement... on avait de quoi nourrir au-delà de ce qu'on imaginait. Ensemble, nous étions plus puissants que chacun. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'on se dit « Oh, nous, on est capable de charité, mais les autres sont des pingres. Les autres ne vont pas donner. » Mais en fait, les autres sont des fois plus généreux que nous. Et on vient avec une quiche, et eux sont venus avec une bouteille de vin et un gâteau marbré. Et vous voyez, une sorte d'interaction positive, le cercle vertueux. Ça déborde, ça périsse haut.
L'interprétation que tu donnes de la multiplication des pains, ça serait que la foule énorme qui était là, elle n'était pas venue sans rien.
Oui, c'est ça. Mais ce qui se passe, c'est la petite étincelle qui fait prendre conscience que s'il y a du partage, et c'est bien le verbe utilisé dans le texte, s'il y a du partage, de la solidarité, alors nous pouvons être nourris davantage que ce que chacun aurait pu se nourrir lui-même. Et je dis que le titre « Multiplication des pains » est abusif, parce que le verbe « multiplier » n'est pas dans le texte. Donc on ne multiplie pas les pains, on les partage. Hein ? Il n'y a pas l'idée selon laquelle on prend un pain et d'un seul coup il y en a deux, quoi. Non. Il y a du partage, et peut-être que le partage initie un mouvement de partage encore plus grand.
La multiplication des pains vous a introduit dans un espèce d'univers de magie, tandis que le partage, on reste dans l'humain.
Oui, oui, oui. Et dans le praticable.
Pourquoi on continue à le traduire si mal alors ?
Alors c'est juste le titre, hein. C'est les titres faits par les éditeurs, parce que maintenant que tout le monde connaît ce titre, la multiplication des pains, mais...
On pourrait bien améliorer.
Oui. Oui. Ceci dit, les vraies Bibles protestantes, comme celle que vous avez, qui doit être une version synodale, n'ont pas de titre, de façon à ne pas induire le lecteur dans une mauvaise piste.
Oui. Oui, non, mais je pensais quand même que dans les sociétés traditionnelles, méditerranéennes ou autres, il y a encore des mentalités, des structures mentales, donc qui disparaissent aujourd'hui avec le tourisme, mais donner au-delà du possible quelque chose qui a une signification dans le temps. Moi, j'ai une expérience des années héroïques en Grèce où les petites vieilles voitures de chaux avec un radiateur, où j'ai vu des paysannes nous donner de l'eau qu'on allait chercher pour la voiture, de l'eau qu'on allait chercher le matin au puits tous les matins. Il y a un terreau également rituel. Bon, alors il est vrai, il y a peut-être la relation à l'étranger à qui on va tout donner, mais je crois que tout
en tout cas, il y a vraiment une façon d'être pour l'autre qui peut varier du tout au tout. Et vous voyez, c'est vraiment une dimension théologique, parce que dans ce don, il y a le fait de reconnaître l'autre comme celui qui est en droit de bénéficier de mon don, et dans le fait que le don, en fait, ne m'appauvrit pas. Peut-être aussi parce que, c'est ce qui est sous-entendu par Paul, c'est que, au fond, ce n'est pas véritablement un don, parce que je n'ai rien que je n'ai reçu.
Oui.
Et donc, effectivement, il y a une sorte de circulation, il y a une sorte d'économie de la circulation que reprendra ensuite Calvin, d'ailleurs. Calvin qui va développer une théologie de l'économie qui dit que l'économie, c'est ce qui permet d'abord d'établir des relations entre les personnes. Ce n'est pas une histoire d'enrichissement financier. L'économie, c'est ce qui permet de concrétiser la relation fraternelle qu'il y a entre les personnes. On continue ? Alors, le verset 4, oui. « Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Alors là, les mots sont un peu importants parce que « de prendre part à », c'est en fait justement la koinonia, c'est être en communion. Et ça va être décisif par Paul. Il veut rétablir la communion. « Prendre part à », c'est être en communion avec. Et puis, tes diaconias, c'est la diaconie. Hein, donc l'assistance, c'est le service ou la diaconie. Vous voyez, c'est chargé de sens. Et ce n'est pas l'assistana au sens de Laurent Wauquiez ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'acte qui va permettre à l'autre de se réaliser. C'est s'engager personnellement dans une relation que l'on va entretenir pour porter l'autre à la hauteur qu'il mérite, en quelque sorte. Voilà, donc, koinonia, diaconia. Ensuite, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse, parce que Il me semble que nous avons un point saillant de la théologie du don. Parce qu'il y a un problème dans le don que quelqu'un comme Marcel Mauss avait bien repéré, que beaucoup de cultures traditionnelles ont bien repéré, c'est que s'il n'y a pas un contre-don, il y a un déséquilibre qui crée un problème chez celui qui a reçu. Vous voyez, on le comprend très facilement finalement en disant celui qui peut donner, il a donc le pouvoir de donner. Et celui qui a le pouvoir de donner a donc le pouvoir. Et donc il a le pouvoir sur celui qui reçoit. Et ça signifie qu'il y a un risque d'humiliation de celui qui reçoit. Vous avez peut-être constaté que des fois, en rendant service à quelqu'un, la relation se distendait parce que l'autre ne sait pas comment rembourser la dette, finalement. Hein, il y a un sentiment de mal-être, voire de honte, parce qu'il a été pris en défaut, finalement. Parce que vous avez eu le pouvoir sur lui, et ça l'a diminué. Quelqu'un comme Friedrich Nietzsche, dont on dit toujours qu'il valorise le surhomme, et on a le sentiment qu'il valorise celui qui n'a aucun respect pour l'autre, au sens de aucune pitié pour l'autre. Dans le Gai Savoir, Nietzsche a ces aphorismes-là. « Qu'appelles-tu mauvais ? Celui qui veut toujours faire honte. Que considères-tu comme ce qu'il y a de plus humain ? Épargner la honte à quelqu'un. » Nietzsche. Eh bien, dans la question du don, il faut avoir en tête le risque d'humiliation de l'autre, le risque de faire honte à l'autre. Ce qui signifie que le don doit toujours s'accompagner d'une recherche de dignité, hein, ouvrir sur la solidarité. Eh bien, c'est peut-être ce que Paul met en évidence ici quand il commence par parler du don de soi. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'humanité qui va permettre ensuite une relation plus économique, plus financière. Il va commencer en disant « Il faut développer le sentiment d'appartenir à une même famille. » Et donc ça va peut-être permettre une sorte de réciprocité. Parce que, c'est-à-dire que, si je reprends Marcel Mauss dit pour un don réussi, il faut 3 étapes. Il y a donner, recevoir et rendre. Rendre, ça nous semble complètement hors du don. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, ça doit être ça d'ailleurs. Et dans beaucoup de cultures, c'est comme cela, don et contre-don en quelque sorte, pour éviter de casser la relation. Oui.
Quand on a le choix entre prêter et donner,
oui,
il vaut mieux donner.
Oui. D'ailleurs, on dit bien un livre prêté est un livre donné.
Parce que quand on prête, quand tu leur fais un prêt, ça implique que la personne te le rende, te le rende d'une façon ou d'une autre.
Oui.
Et si elle ne peut pas te rendre, ça rompt l'affirmation.
Oui, oui.
Tandis que le don, bon, voilà, ça libère. Alors, ah, oui. La façon de donner.
Exactement.
La façon de donner, pas humilier. Mais un don est meilleur. Ça délivre l'autre de l'obligation de...
Disons que l'un et l'autre méritent d'être faits de manière pensée, en ayant le souci de ce que l'autre va ressentir. Ouais. Le souci de l'autre, hein, c'est un thème très ricurien, ça. C'est la question de l'empathie. Hein. On peut glisser sur la question de la charité. Faire la charité, c'est devenu très péjoratif. Parce qu'on se débarrasse de son superflu, et puis on renvoie l'autre à sa misère. Et on le maintient dans sa misère, en quelque sorte, parfois. Et on va voir que Paul va essayer de neutraliser les risques négatifs. Et ce que tu dis est tout à fait juste. Lui, il va finalement se mettre sur la logique du don, parce que ça ne va pas mettre l'autre dans l'embarras. Alors, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'a commencée. Rien de bien spécial. Si ce n'est que c'est pas lui qui va pouvoir s'en charger directement parce qu'il y avait le conflit, donc c'est Tite qui est envoyé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Bon, l'amour, évidemment, c'est l'agapé, et la bienfaisance, qu'on avait déjà au verset précédent, c'est la charis. C'est la grâce.
Non. C'est ça qui est important, je trouve.
Oui.
C'est prendre conscience que participer à on part à l'assistance, donner, etc., c'est une grâce.
Oui. Et c'est être aussi vecteur de grâce. Parce que la théologie réformée a vraiment développé la question de la grâce. Mais on peut avoir une idée de la grâce, quelque chose d'un peu surnaturel qui devrait, comme ça, surgir sans aucune médiation. Pour compenser cela, on a parlé des agents de la grâce, nous. C'est-à-dire qu'il n'y a de grâce possible qu'à la condition qu'il y ait des agents pour la rendre disponible. Donc, vous pouvez être au bénéfice de la grâce si quelqu'un est porteur de grâce pour vous.
Il faut un vecteur.
Un vecteur, un agent. Et peut-être que on pourrait se dire qu'il y a finalement un lien entre le don et la justice. Et c'est cela aussi que l'on peut déduire de ce passage de Paul. Comment la charité peut-elle servir la justice? Eh bien, la justice, c'est faire ce qui est juste, c'est faire ce qui est droit. Et c'est en fait appliquer le droit. Mais nous savons bien que si nous appliquons le droit de façon mécanique, aveugle en quelque sorte, ça devient presque barbare. C'est-à-dire appliquer le droit sans tenir compte, je sais pas, du prévenu par exemple, ou des victimes, eh bien, ça peut conduire à un sentiment d'injustice. Parce que, en fait, deux délits ne sont jamais les mêmes, ou deux situations ne sont jamais identiques. Et donc, les magistrats en France insistent bien pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'interpréter le droit pour pouvoir rendre justice dans chaque situation particulière. Eh bien, peut-être que ce qui fait la différence, justement, c'est la question du don. Le don, c'est ce que l'on va ajouter dans une mécanique déterministe pour que l'histoire s'ajuste au vivant qui résiste toujours aux catégories prédéfinies. Je prends un exemple. Droit de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et tout un tas de choses. Bon. En fait, c'est pas vrai. C'est pas un état de fait, c'est un projet, c'est une visée. Et donc, cela suppose qu'on injecte dans l'histoire des éléments pour rendre cela vrai. Vous savez, il y a eu des tentatives, par exemple, dans les établissements supérieurs en France, pour donner une chance à des jeunes issus de quartiers défavorisés pour pouvoir accéder à Sciences Po, par exemple. Ça a été une grande affaire il y a quelque temps. En quelque sorte, pour faire justice vis-à-vis de personnes qui ont les capacités de réussir, mais qui n'étant pas dans les réseaux, dans les filières, n'ont tout simplement pas accès, en fait. Bon. L'idée, c'est que si on veut que le droit soit appliqué, il faut rajouter autre chose que le droit. Il faut donner dans la mécanique du droit de l'humanité. Il faut donner du jeu, en quelque sorte. Donc, ce que je me demande, c'est finalement si le don ne serait pas le propre de l'homme. Je me demandais, vous savez, actuellement, avec les nouvelles technologies, on en vient de plus en plus à se demander quelle est la différence entre l'homme et l'ordinateur. Avec le transhumanisme, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'à un moment donné, on va se faire supplanter par les ordinateurs, en quelque sorte? Bon. En lisant ce texte, je me suis demandé si la différence qu'il y avait entre un ordinateur et un homme, ce n'était pas que seul l'homme est capable de donner. Alors, c'est aux informaticiens de répondre. Est-ce que les ordinateurs sont capables de donner? Eh, mais est-ce que programmer le don, c'est encore du don?
Oui. Quand je dis le mot économie, c'est fonctionnement. Dans l'économie familiale,
oui.
On veut avoir des principes,
oui.
Familiaux, tous les enfants, et on sait très bien qu'à certains, il faut donner plus,
oui.
Et qu'il n'y a pas de loi de justice, et d'où parfois des révoltes entre frères et sœurs, c'est pas juste.
Bien sûr.
Le premier apprentissage est là, à la base. L'amour des parents qui finalement ajuste une sorte de loi qu'on voudrait universelle, mais il faut justement des compensations.
Oui. C'est-à-dire que si la loi universelle, c'est une visée, il va y avoir plusieurs chemins qui amènent au point visé, en fait. Si je prends un exemple très trivial, au sein d'une fratrie, on ne va pas nourrir tous les enfants de la même manière, je veux dire, avec les mêmes quantités. Parce qu'on n'a pas tous le même volume stomacal. Bien. Et la justice, c'est que chacun ait ce qui lui est utile. Et d'ailleurs, Paul va le dire en reprenant l'exemple de la manne, un peu plus loin. Mais pour une fois, c'est moi qui anticipe un peu le texte. Je reviens sur cette idée de la programmation informatique. Si le don devient une règle, un devoir, est-ce qu'il ne cesse pas du même coup d'être un don? Voilà, question ouverte, on ne va peut-être pas y répondre, mais c'est bien de garder des questions. Oui, mais est-ce que si le don est un devoir, une règle, etc., c'est encore un don? Est-ce que... Ah oui, c'est intéressant quand même. Mais dans le don, il n'y a pas que l'objet. Il y a aussi l'acte du don. Et c'est ça que Paul met en place. Il ne parle pas de quantité, notre cher Paul. Il parle en quelque sorte des motivations. Et il va, j'allais dire, démotiver les motivations. Oui.
Donc, je veux dire, par là, l'homme n'est plus qu'un objet qui transmet quelque chose d'un autre objet qui est utilisé pour... Mais il n'y a plus de relationnel de sujet à sujet.
Parler pour tout le monde. L'idée, la question, c'était c'est programmé en quelque sorte, est-ce que du coup, il n'y a pas l'instauration d'un utilitarisme?
Le déplacement aussi de l'homme-objet au lieu de l'homme-sujet qui est en relation justement.
Et on pourrait se dire que finalement, dans l'acte du don, il y a certes l'objet, mais il y a aussi le sens. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui, je crois qu'il est un fou amoureux de Venise, si on lui offre quelque chose sur Venise, on va le reconnaître dans sa passion-là. Et donc, le cadeau, ce n'est pas simplement l'objet avec une valeur commerciale. C'est aussi ce qu'on injecte dans l'objet de reconnaissance pour ce que la personne est et ce qu'elle peut devenir.
Oui. Te dépose celui qui donne, se dépossède quand même de quelque chose.
Oui.
Bon, un ordinateur que tu as programmé ne se dépossède de rien du tout.
Hein. Oui, ça c'est vrai.
Attendez.
Oui.
Comme par exemple en ce moment, bon, il y a des problèmes qu'on sait aux Indes et pas aux Indes, comme le Népal.
Népal, oui.
Bon, bah, tu donnes tu donnes quand même en pensant à tous ces gens. Je veux dire, tu es bien obligé de passer par un vecteur assez anonyme, assez... Mais tu le fais quand même avec tout ton cœur et tu essaies de participer dans la mesure que tu peux.
Mais dans ce don, donc acte de charité, il y a quand même cette idée que l'on reconnaît l'autre comme un humain souffrant qui a des besoins légitimes que je vais essayer de combler. Donc il y a quand même un acte de reconnaissance. C'est pas un don qui a été mis dans une grande loterie et qui arrive au hasard chez quelqu'un. Donc il y a une sorte de ciblage. Et ce sens... fait sens, en l'occurrence. Ouais.
Oui, je me demande toujours... Alors, je pense que l'essentiel, c'est de pointer du doigt le fait que le don crée donc le lien avec l'autre. Mm-hmm. Et je me suis toujours demandé que j'ai fait très peu d'apprentissage d'hébreu, mais enfin, il m'est resté des petites choses de rien. J'avais cru quand même comprendre qu'en hébreu, déjà, Yahvé harcelait l'homme, c'est lui qui... Et il y avait une récurrence du verbe, c'est Nathan, je crois.
Nathan, donné.
Une récurrence linguistique extrêmement importante.
On va commencer par le don de la terre promise, par exemple.
Oui, oui. C'est peut-être cette image d'un Yahvé qui vraiment harcèle par ses dons.
Il y a une surabondance, en tout cas. Oui, oui. Là, chez Paul, ce n'est pas forcément créer la relation, c'est plutôt la restaurer et l'entretenir. Mais toutes les possibilités sont envisageables. On continue un peu le texte ? Un petit peu ? De toute façon, je sais bien que je ne vais pas vous empêcher d'intervenir, mais c'est pour juste qu'on déroule un peu le texte. OK ? Ça marche ? Bon. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre. Un ordre, c'est ce qu'on donne à un ordinateur. Je défends ma boutique. Mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, de votre amour, en fait. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc c'est ce que je disais quand François m'a interrogé là sur Philippiens 2. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Alors, je m'arrête là-dessus. C'est insignifiant, mais comprenez bien que on a ici un détail anecdotique, historique, qui empêche de faire une application littérale du texte. Parce qu'on voit bien que c'est très circonstancié, ce texte. L'année dernière. Et quelqu'un qui voudrait faire une lecture littéraliste serait obligé de dire « bah c'est vrai, ça s'est passé l'année dernière ». Vous voyez, c'est l'absurde du littéralisme. Le texte biblique intègre en son sein des indicateurs pour disqualifier une lecture littérale, mais encourager une lecture interprétative. Bon. « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Et le vouloir, c'est téléine, c'est vraiment le fait de viser quelque chose, le désir. Ouais. Et ça correspond bien à une adhésion personnelle. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, on n'est pas forcé, on n'est pas contraint, c'est vraiment un désir personnel. Du coup, il y a une gratuité qui s'exprime à travers cela. Et c'est pour ça que plusieurs fois, il y a la question de la volonté qui entre en ligne de compte. Et le verset 12, c'est là-dessus, justement, la bonne volonté, protumia. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Autrement dit, ça ne joue pas sur la frustration, ça joue plutôt sur la reconnaissance. C'est-à-dire que on n'est pas obsédé par ce qui nous manque, on est reconnaissant pour ce que l'on a. Et la liberté, elle est là, en fait. La liberté, elle n'est pas dans l'obtention de ce qui nous faisait défaut ou l'accumulation intempestive, mais elle est dans la reconnaissance de ce que nous possédons et de ce que nous possédons de façon plus essentielle qui soit. Et au fond, c'est l'identité qui est en jeu. C'est que la première grâce qui nous est faite, c'est de ne pas avoir besoin de marchander ou de commercer notre identité. Le baptême dit bien que cela nous est donné d'emblée. La bonne volonté, donc, voilà. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Ça, c'est quand on disait « on perd quelque chose ». Ben, en fait, vous voyez, il ne s'agit pas de se sacrifier.
Alors, c'est un peu contradictoire avec le verset 3, qui parlait de donner au-delà de ses moyens.
C'est parce que tu insistes sur les moyens matériels. Mais là, c'était sur la puissance. La puissance de frappe. C'est par exemple un tennisman qui va pouvoir augmenter son niveau de jeu en cours de jeu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient numéro 1 à l'ATP ? C'est qu'on a progressé, ou que les autres ont diminué, comme vous voulez. Mais c'est qu'à force de travail, eh bien, et d'interaction, on augmente. Je vous avais raconté une fois ces huitièmes de finale et demi-finale à Roland-Garros du temps de Michael Chang, ça devait être en 90-91. Michael Chang, un petit minable, qui joue contre Ivan Lendl, numéro 1 mondial. Eh bien, pour battre Ivan Lendl, il a fait baisser le niveau de jeu d'Ivan Lendl. Il a servi la cuillère, il a joué avec des lobes, tout ça. Enfin, même moi, je fais mieux. Bon. Eh bien, ça montre que quand on baisse l'interaction, on baisse le niveau d'exigence. Eh bien, là, c'est l'inverse. Quand on augmente le niveau d'exigence, l'autre est capable de faire plus que ce qu'il imaginait. Ouais. Il surpasse. À vous de voir dans le détail. À vous de voir dans le détail. Parce qu'on parle beaucoup de l'éducation nationale sans trop avoir vu. Voilà. L'exigence, c'est quelque chose qui permet le dépassement.
Oui, oui.
Et si on baisse le niveau d'exigence, eh ben on baisse le niveau de réalisation en général. Donc, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse, donc pas d'esprit de sacrifice. Il ne s'agit pas de vous rendre minable, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Une sorte d'échange, là, vous voyez, on est sur le don et le contre-don. Échange de superflu. Mais on va atteindre un autre niveau après. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc là, vous reconnaissez l'histoire de la manne, Exode, chapitre 16, verset 18. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation. L'égalité, c'est pas l'équité. Voilà. Et là, l'action de grâce. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Donc, le zèle, je crois que c'est cela, c'est le fait de faire plus que ce qu'on nous demande. Le fait faire du zèle, c'est la surabondance. C'est pas fanfaronner. Si, c'est fanfaronner aussi, mais là, dans l'idée, c'est vraiment faire de son mieux au point de se dépasser. Nous envoyons avec lui le frère anonyme, dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante. En fait, collecte n'existe pas dans le texte. C'est abondante, à laquelle nous donnons nos soins. Et ce qui est intéressant, c'est que nous donnons nos soins, c'est encore le verbe diakonéo, en fait. Donc c'est la diaconie, le service, les diacres. Prendre soin d'eux, c'est être diacre. Et adrotes, l'abondance. Car nous cherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, vous voyez, il y a du sens. Nous envoyons avec eux notre frère, donc encore un autre, anonyme, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité. Il s'agit de faire une démonstration. Et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Alors, vous voyez, c'est un peu ce que l'on dit des fois au moment de l'offrande. Voilà, grosso modo, donnez beaucoup pour montrer que votre foi est grande. Par contre, là où ça pose problème, c'est que ça devient un sujet de glorification. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait une mise en scène de la charité, quelque chose de spectaculaire dont on se glorifierait. Idéalement, la main gauche ne devrait pas savoir ce que donne la main droite. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas s'enorgueillir d'avoir donné, sinon ce n'est plus un don. Ou alors tout de suite on a le contre-don qui est la satisfaction et vous voyez, on se monte en épingle, tout ça. C'est pas monstrueux, vous dites ? Bah, c'est pas monstrueux, mais ça dénature un peu le don. C'est plus vraiment un don. C'est un investissement. Voilà. Bien. Donc, dans ce premier chapitre, nous avions la Macédoine, et là, on va parler de l'Achaïe. Alors, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. Donc vous voyez, cette fois, c'est auprès des Macédoniens que les membres de l'Achaïe vont être un exemple. En déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Vous voyez, on est encore dans une sorte de texte symétrique, en fait. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. C'est ça, le cercle vertueux dont je parlais. Eretizo, donc c'est stimulé, et c'est donc c'est bien le zèle, zélos, qui stimule. C'est une pédagogie de l'exemple. Peut-être que, au lieu d'avoir des aumônières en velours, on pourrait avoir effectivement des grands saladiers en verre. Oui. Il y aurait une sorte d'encouragement à...
Tu sais, aux États-Unis, là où on a été, il y avait un plateau
comme ça,
en métal
français. Oui, ouais, voilà.
Seulement,
voilà.
Seulement, dans ce plateau, on mettait une enveloppe dans laquelle on avait glissé.
Ah, voilà. Ah, oui. Oui, ça reste discret.
Mais sur la vie dans l'église catholique, à la messe, j'ai participé, observé que ce n'était pas des aumônières, c'était
des paniers.
Des paniers.
Ah oui.
Donc tu peux voir ce que donne ton
voisin. Ah oui. Mais l'important, c'est qu'on voit que l'autre donne, et ce qui est important, c'est que ce qu'il donne, ça soit son affaire et pas la nôtre. Donc c'est le geste qui doit être un encouragement, pas le montant. C'est l'acte de donner qui est important, pas l'objet du don. Enfin, c'est important dans la relation interpersonnelle, mais pas dans la dimension collective. Quelqu'un qui fanfaronnerait de ce qu'il a donné à l'Église, je pense que ça nous amuserait juste deux minutes, quoi. Après, on le ramènerait de meilleurs sentiments, je présume. Bon. Et en général, ceux qui donnent beaucoup, d'ailleurs, ne fanfaronnent pas spécialement. Donc, vous voyez, une stimulation. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Donc, on a ici justement le verbe qui donne la kénose, hein, le fait de réduire à rien, de vider. Et donc là, ce qu'il s'agit, c'est de ne pas vider la gloire. Kaokema, il s'agit de ne pas vider la gloire de ces personnes qui ont fait une sorte de bien absolu. Et donc, que vous soyez prêts, comme je vous l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre... Alors, plutôt que confusion, c'est honte ou déshonneur. Et Paul est quand même un peu inquiet, hein. Il a une représentation de lui-même qu'il tient pour haute. Il a quand même un ego qui a un peu de consistance. Disons que c'est coercitif, parce qu'en plus il va dire ensuite pour ne pas dire la vôtre. Sous-entendu, si vous voulez pas avoir honte, faites un effort, quoi. Pris positivement, ce serait, si tu veux être à la hauteur de ta vocation, investis-toi sérieusement. Et effectivement, il y a une sorte de pédagogie négative. Est-ce que c'est une bonne pédagogie ? Ça, c'est pas évident, mais une pédagogie négative qui consiste à faire peur. Si tu veux pas la honte, bah, tu fais autrement. Et aujourd'hui encore, on dit oh non, ça c'est trop la honte. Je peux pas sortir comme ça. Papa, je peux pas mettre ce pantalon, c'est trop la honte. Mes camarades vont se moquer de moi. Bon. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alors, il y a ici le terme eulogia. Eulogia, c'est donc eux comme heureux, bonne, et logos, parole. Et c'est ce qui donne bénédiction. Éloge, c'est l'éloge en fait. Alors c'est traduit par libéralité, mais je trouve que c'est intéressant de garder qu'il y a eulogia derrière. Et donc, que ce soit bien de cet ordre-là, donc de, finalement une parole qui encourage, plutôt que l'acte d'avarice, c'est-à-dire le repli sur soi. Tout à l'heure, on parlait de la mise en relation. Eh bien là, il s'agit effectivement hein, d'entretenir la relation. Donc, une parole bonne à entendre, donc qui va encourager plutôt que l'avarice qui est l'empêchement de la relation. L'avarice, à Marseille, on dit que c'est avoir des oursins dans les poches. Bon, bah, vous comprenez que l'oursin, ça empêche un peu la relation, quoi. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, là, on a encore eulogia. Abondamment, en fait, c'est encore de la bénédiction. Et vous voyez, là, on a une symétrie inverse du chapitre 8. Dans le chapitre 8, on avait une citation du récit de la manne avec Exode 16. Certains recueillaient beaucoup, d'autres recueillaient moins, et tout le monde avait ce qu'il lui fallait. Eh bien là, ce n'est pas recueillir, c'est semer et moissonner. Vous voyez, c'est une dimension plus active, avec un retour sur investissement. On n'est plus tout à fait dans la logique du don gratuit. Il y a plutôt cette logique de don avec espoir de retour. L'honnêteté, c'est que quand on donne, enfin l'honnêteté, c'est de dire que lorsqu'on donne, en fait, il y a aussi un retour. Même si le retour n'est pas désiré. Mais il y a un bénéfice. Et ce bénéfice, c'est par exemple celui de pouvoir rester libre par rapport à ce que l'on croit posséder. Tout à l'heure, on disait donner, c'est se déposséder de quelque chose. Oui et non. Possède-t-on vraiment ce que l'on a ? Paul va dire par ailleurs « ayez comme n'ayant pas ». C'est-à-dire, jouissez de ce dont vous bénéficiez, mais sans esprit de possession. Pour la bonne et simple raison, c'est que comme ça, si un jour vous le perdez, ben, ça sera moins douloureux. Et puis, que ça favorise l'échange. On a toujours quelques scrupules à confier quelque chose auquel on est sérieusement attaché, forcément. Or, parfois, il est utile de pouvoir confier ceci ou cela. Je prends un exemple, bien sûr, pour vous faire un peu crier, mais un enfant, par exemple, on peut considérer que c'est notre enfant, qu'on le possède, et du coup, on ne va jamais le confier. Ben, c'est dommage pour l'enfant, parce que ça va lui faire perdre quelques interactions qui pourraient lui être utiles. Je veux dire, confier au sens babysitting, partir un week-end, en le confiant aux grands-parents, des amis, etc. Si on ne le fait jamais, ben, l'enfant n'aura qu'un nombre limité de vis-à-vis. Et c'est exactement la parabole des talents. Si on enterre les talents, ben, ça limite les fruits que l'on peut escompter. En revanche, si on fait circuler les talents, c'est comme au rugby. Si on fait circuler la balle, il y a plus de chances d'avoir des essais. Si on enterre le ballon au sol, en regroupement, ben, on rend le ballon à l'adversaire. C'est une règle du rugby. C'est très évangélique. Non. Non, mais c'est la French Touch.
Que je...
Exactement. Voilà. Ou en Corse, on fait l'inverse de Napoléon. Ou en Corse. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors ça, c'est une phrase que j'entends souvent au moment de l'offrande dans beaucoup de temples. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc c'est pour ça qu'on ne montre pas aux autres. Voilà, c'est une affaire très personnelle. Et puis, Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà, souriez pendant l'offrande, quoi. Vous ne perdez rien. Hein, vous donnez.
On le dit pas souvent, je trouve. Tu le dis pas souvent ?
Donner avec joie, celui, que oui. Dieu aime celui qui donne avec joie ? Oui. Non. Mais peut-être que dimanche, je me rattraperai.
Ouais. Celui qui aime le don joyeux.
Voilà. Ouais.
On sait où c'est là.
Ouais, c'est ça. Et ouais. Ouais, ouais. Et vous voyez, il y a une pédagogie hein, dans l'offrande dominicale, c'est d'apprendre à donner. Et en apprenant à donner de l'argent au culte, d'ailleurs, il y a cette phrase parfois, au fond, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Donc vous voyez, au niveau du don, c'est déjà un peu moins grave finalement. Mais cette pédagogie du don nous apprend à donner et après, ça peut rejaillir sur la vie quotidienne, y compris sur le don de soi, hein, donner de sa personne, donner de son temps, être dans une attitude non comptable, en fait. Peut-être que la comptabilité dans les relations humaines est ce qui nuit un peu au développement de l'humanité. Parce que on est dans un prêté pour un rendu, on est dans cette logique de « je fais ceci pour obtenir cela », et c'est de la diplomatie, en fait. Je vais voir un tel pour lui vendre des rafales.
D'où l'importance d'une prédication qui a exalté les paroissiens. Parce que l'appel au don, la quête se fait après,
oui.
Dans la mesure où ils sortent de la prédication.
Oui. Le choix du cantique est très important aussi. Ouais. Pas prendre un cantique trop tristouné ou mal chanté. Ça, ça tue le don.
Ouais. On s'est ennuyé.
Mmh. Oui. À la limite, on va même se servir dans la quête parce qu'on va être remboursé. Ouais, c'est juste. Sans oublier que la fois suivante, on ne revient pas et donc que l'offrande baisse d'autant.
Ne pas hésiter à accepter une invitation de quelqu'un parce qu'après, on se dit « Ah oui, mais moi, je ne pourrais pas lui rendre. » Ça, c'est dommage. Mmh.
Ah oui. Oui. Mais bien sûr. Mais dans l'étiquette française, on rend les invitations. Mais oui. Non, mais je dis pas qu'il faut se conformer à l'étiquette française. Je dis juste qu'effectivement, il y a des pratiques qui veulent cela. Ah oui. Alors, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Donc là, il y a une surabondance de la grâce qui tient justement au fait que, comme on n'est pas crispé sur ce que nous avons, eh bien, ça signifie que nous sommes aussi disponibles pour recevoir d'autres choses. Quand on passe son temps à gérer son portefeuille, si on n'a plus de temps que pour cela, on n'aura plus de temps pour saisir de nouvelles occasions.
Ça, ça fait penser à la veuve de Sarepta.
Ah oui.
Pourquoi ? Elle avait toujours de lui.
Ah oui.
Toujours de lui.
Ah oui. Et le contre-exemple, c'est Citizen Kane d'Orson Welles, hein, avec ce mania de la presse, qui, au terme d'une vie qui peut nous sembler magnifique, exemplaire, eh bien, fait un peu le point et se désole en fait du temps de l'enfance, qui était le temps béni, et finalement il appelle sa luge, hein, Rosebud, voilà, parce que en fait tout le reste a été une mauvaise parenthèse. Donc, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc ça, c'est une citation du psaume 112, verset 9. Et puis le verset suivant, c'est une citation d'Ésaïe 55, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Aoguerre, c'est... ou là, c'est Aoguesseï, c'est accroître. Hein. Mais c'est ce qui va donner l'autorité aussi, d'ailleurs. Hein. C'est le fait de faire grandir, c'est d'augmenter. C'est pas multiplier au sens où il y a un dédoublement cellulaire. C'est qu'il y a une croissance, en fait. La chance appelle la chance, le bonheur appelle le bonheur. On a des cercles vertueux comme ça, ou des cercles vicieux. Hein. Le malheur appelle le malheur. Hein. On peut considérer que on peut décider d'être chanceux. C'est-à-dire qu'on peut décider d'arrêter la roue au bon moment, quoi. Et certains ont, j'allais dire, un don, une capacité à attraper les occasions parce qu'ils les discernent au bon moment, en fait. Et plus on est sensible à ce qui nous arrive, plus on développe une sensibilité et plus on a de nouvelles opportunités, en quelque sorte. C'est l'éducation, en fait. Alors, verset 11. « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Ben, c'est ce que Paul est en train de mettre en place, la collecte. Oui, exactement. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, là, il y a de quoi faire des slogans publicitaires. Ouais. Ceci dit, il y a des banques qui doivent avoir ça, confie-nous votre argent, et ceci, cela. Votre
argent nous intéresse.
Ouais, voilà, c'est ça. Car le secours de cette assistance... Alors là, en grec, c'est intéressant parce qu'on a la diaconia à la place du secours, donc c'est la diaconie, et puis on a l'aiturgia, c'est la liturgie, en quelque sorte, qui est aussi le service. Donc on a la diaconie de la liturgie, on a le service du service. Donc on a le service par excellence, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment l'interaction positive, c'est plus nous sommes source de bien et de satisfaction, plus il y a de bien et de satisfaction dans notre environnement. Mettez une mauvaise ambiance dans la famille, vous en paierez les conséquences. Hein. En revanche, si vous êtes un facteur de joie, de réjouissance, bon, bah, on peut imaginer que ce soit un peu contagieux. Oui. C'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques. Aussi, oui. En considération de ce secours, donc de cette diaconie, dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Alors la profession, c'est l'homologation en fait. Le fait d'attester, hein. Homologein, c'est donc comme on homologue quelque chose, c'est de dire que cela est bien conforme à ceci. Et donc de la libéralité, hein, donc la libéralité c'est aussi bien la générosité que la simplicité, c'est ce terme qu'on n'a pas cessé de voir. Les libéralités souvent c'est l'argent liquide ou l'argent disponible, mais là en grec c'est la simplicité, la générosité. C'est ce qui est disponible hein, aussi bien sûr. De vos dons envers eux et envers tous. Et alors vos dons, c'est tes koinonias, c'est encore la communion, la koinonia. Donc, ce qui est vraiment en jeu au bout de ce texte, c'est encore et toujours la solidarité, la communion, le lien qu'il y a entre la communauté de Jérusalem et Paul à travers la communauté d'Achaïe et la communauté de Corinthe. Il prie pour vous parce qu'il vous aime, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ineffable. Et donc, ineffable, indescriptible. C'est un don qui surpasse aussi. C'est-à-dire qu'il surpasse ce que nous sommes capables de dire. L'ineffable. Et juste avant, hein, au verset 14, la grâce éminente, c'était une grâce hyperbalo. Ça veut dire une grâce qui surpasse, qui jette par-dessus. Hein, c'est quasiment le drop. Et donc, on a vraiment de l'excès en permanence. Tout est excessif. Et la simplicité, elle permet des excès de qualité de vie, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de tout miser sur la quantité, on est disponible pour la qualité. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais si vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un, vous l'invitez chez vous et vous lui faites une multitude de plats. Moyennant quoi, vous serez toujours en cuisine et donc vous n'allez pas en profiter. Un petit dîner à la bonne franquette, tout sur la table, service à la russe, finalement. Non, à la française, service à la française, tout sur la table, et du coup, on profite les uns des autres.
C'est l'histoire de Marthe et de Marie, ça. Marthe était tout le temps en cuisine.
Ouais. Maître Eckhart dit que la position de Marie précède la position de Marthe. C'est-à-dire que Marthe n'est pas en... Marie n'est pas encore capable de pouvoir accomplir l'œuvre de Marthe. Elle doit apprendre pour ensuite être au service d'eux. Elle est dans une sorte de propédotique. Voilà. Et quand Jésus lui dit « elle a pris la bonne part », c'est que pour l'instant, elle a besoin d'apprendre. Elle a besoin d'être au pied de son Seigneur pour pouvoir ensuite être diaconesse. Yes. Voilà. Bon, et bien voilà, nous sommes au terme de cette épître, pile à l'heure pour une fois.